France Musique.
Moi, je suis ici. Écoutez. Et bougez pas.
Allô, monsieur Isaac Stern. Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation Christine Amado.
Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai raconté la joie profonde qu'avait Isaac Stern à faire de la musique aux côtés de Pablo Casals. Cela a changé sa façon de voir son métier.
Je suis très heureux d'être un musicien. Et quand je joue de la musique, il y a des moments où je dois dire, et j'espère que vous m'excuserez, vous et vos auditeurs, j'ai pitié pour tous les autres qui ne sont pas des musiciens.
Ragaillardi par le vieux maître, notre violoniste ouvre son répertoire et approfondit les œuvres déjà jouées maintes fois. Maintenant, il peut donner jusqu'à 150 concerts par an. Et il en fait de merveilleux avec le New York Philharmonic. En 52, il y retrouve par exemple son cher Pierre Monteux, celui qu'il a dirigé pour la première fois à l'âge de 16 ans. Il joue au Levison Stadium de 8000 places à Manhattan pour un concerto de Sibelius. Mais comme nous l'avons déjà écouté, évoquons un autre chef ami, Dimitri Mitropoulos, toujours avec le New York Philharmonic, avec qui, en 51, il a fait 3 concerts. Ils ont interprété notamment le concerto de Dvorak. Isaac, j'aimais jouer, j'aimais les gens, j'aimais leur parler avec mon violon, les voir passer de l'exultation à la tristesse ou à la réflexion, selon le cas. Faire de la musique pour les autres était ma raison d'être. J'aime voyager, rencontrer des gens, me faire des amis dans tant de villes du monde entier. Pour moi, les concerts n'ont jamais été une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une fin. Ils sont le plus sévère laboratoire où les idées peuvent se développer, où la lutte contre les fautes ne cesse jamais. À chaque fin de concert, Isaac Stern se demande à quel point ai-je été en fusion, à quel degré ai-je maîtrisé mon instrument ? Ces années 50-60, Isaac est en pleine conscience de ses moyens. Et sa femme, Vera, n'y est peut-être pas pour rien.
On doit être sur la scène comme à la maison. La scène, c'est votre maison.
La jolie Vera, au regard décidé et rieur, est désormais aux côtés d'Isaac à chaque instant. Et non, elle ne hait pas la musique. Elle l'a épousée avec le violoniste. Thank you. tout devient plus facile pour Isaac, puisque Vera s'occupe de tout. Répond à tous, écrit à tous, téléphone à tous et même s'est retrouvé une partition égarée. Quand vraiment c'est à Isaac d'écrire, elle l'oblige à se mettre à son bureau. Comme il n'a pas été scolarisé, il a un peu peur de faire des fautes de syntaxe ou d'orthographe. Alors il prend le temps et met un point d'honneur à soigner son style épistolaire. Ses lettres sont toujours très belles. Quand Vera doit rester chez eux, un magnifique duplex sur West Central Park, il s'envoie des télégrammes de la Western Union et se téléphone tout le temps. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Quant à Isaac, s'est-il assagi ? Pas si sûr.
Madame et monsieur, faites-y. Rien ne va plus.
Il s'est découvert une nouvelle passion, les casinos. Il est parfaitement capable de perdre en une nuit son cachet gagné dans la soirée. Isaac continue de se rendre à Prades, au Festival Casals. Il y a fait une belle rencontre pour lui-même et pour le vicomte de Panet, son Guarnerius del Gesù, un certain Étienne Vatelot.
C'est une question d'affection. C'est une très très profonde affection. Nos familles sont très unies. Et c'est peut-être avec Stern, parce que c'est celui qui a été, si j'ose dire, le plus réticent à me connaître. Il avait un luthier qui s'appelait Charles Hennel, qu'il aimait beaucoup et qui était un très grand luthier. Quand Charles Hennel est mort, il a cherché un autre luthier en Europe. Il avait le sien à New York, Sacconi, qui est mort depuis également. Et il m'a apporté son violon, on lui avait parlé de moi. Je l'avais rencontré à Prades en 1951 au Festival Casals. Il est venu me voir, il m'a apporté son Guarnerius del Gesù et puis il m'a dit, vous ferez ceci, vous recollerez ceci. Alors j'ai suivi ses instructions. L'année suivante, il revenait bien entendu en France à rejouer. Il m'a dit, écoutez, vous allez revoir ça. Alors, au bout de 3 ans, il m'a dit, Étienne, vous prenez mon violon et puis vérifiez-le. Et la 5e année, je dis bien la 5e année, il est arrivé dans l'atelier. Je dis, Isaac, qu'est-ce que je fais sur votre instrument? Et à ce moment-là, avec ce ton bourru et affectueux qui le caractérise, il m'a dit « Tu sais mieux que moi !»
C'était gagné.
Et c'était fini. Et alors, depuis, est née une très, très grande amitié. Je dirais presque c'est un grand frère.
Thank you.
Cette année 52, Vera accompagne Isaac à Prague. Stern participe aux 5 derniers concerts, rejoignant même le pupitre de violon du petit orchestre que Casals dirige. Ces années 52-53 laissent des enregistrements inoubliables, dont le trio opus 8 de Schubert, au piano Myra Hess, Isaac au violon bien sûr, et Pablo Casals au violoncelle. Istomin est là aussi. Des années plus tard, il taquine encore Isaac.
Alors maintenant, nous sommes deux vieillards. Bientôt, on va jouer aux boules.
Et pas vraiment. Faire... on ne peut vraiment pas parler de ça.
Un pastis après, alors, ensemble. Non, c'est que nous sommes des amis pour la vie. J'avais une grande personnalité, un grand talent, un grand humain. Et mon ami, on se comprend, on s'entend, il y a une entente musicale, on n'a pas besoin de parler. Du moment qu'on commence à parler, on se dispute. Alors il vaut mieux ne pas se disputer, alors on le joue.
Eugène Istomin et Isaac Stern se lancent dans une sonate de Schumann dont il n'existe pas de traces, mais l'enchantement demeure. À New York, ils se retrouvent et jouent pour le plaisir. Ils commencent à rêver, former un trio avec le grand Casals. Ce n'est guère réaliste d'espérer enrôler l'inflexible aîné dans une telle aventure, puisqu'il a renoncé à jouer en public en dehors de Prague. Point final. Point final. Final. De toute façon, Isaac n'a pas vraiment le temps ces années 50-60. Il se lance avec Eugène Ormandie et l'orchestre de Philadelphie dans une aventure discographique fabuleuse. Tous les grands concertos, Wieniawski, Saint-Saëns, Mendelssohn, Bach, Lalo, Bruch, Tchaïkovski, Prokofiev et bien sûr le Brahms. Sa curiosité lui donne des ailes. En 1953, les tournées s'accélèrent. Plus il y en a, plus il va loin, comme au Japon, où il rencontre le compositeur Mikio Miyagi, avec qui il joue, et notre violoniste se passionne pour le koto. Il semble qu'Isaac se passionne aussi pour les sushis et le saké. Du Japon, il repart à Calcutta, où il rencontre Nehru, avec qui il parle politique. D'Inde, il s'envole aux Philippines. Puis en Australie, il y fait si froid qu'il sort de scène à chaque fin de mouvement d'un concerto pour se plonger les mains dans l'eau chaude. En septembre 1953, le voilà à Londres, où Menuhin est également en tournée. Ils donnent, tous deux, un concert de dernière minute ensemble. Comme quoi, si ce n'est la grande amitié, les hostilités autour de Fort Wengler sont oubliées. <t'-> Isaac a bien conscience de la fatuité de la célébrité.
C'est peut-être un peu la faiblesse de notre métier, parce que, franchement, il y a des artistes qui ont plus de ce talent contre le public que le talent de jouer de la musique de temps en temps. Il y a des artistes, les grands musiciens, qui peuvent faire n'importe quoi, mais on n'a pas cette qualité de vedette, n'est-ce pas? Et malheureusement, le public n'a pas encore de sagacité, de sophistication, décider, entendre, disons, une sonate de Beethoven jouée par M. X, qui n'a pas un grand nom, mais qu'il jouait merveilleusement. Mais il préfère M. Y, qui a un grand nom, mais qui peut faire des fautes énormes, et pour qui on va dire bravo, bravo, bis, bis, bis. C'est dommage. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire, c'est l'éducation dans les écoles, commençant à l'âge de 5 ans.
De plaisanterie. Il est populaire parce qu'il est un grand tendre. Le jeu de M. Stern, écrit le grand critique Schoenberg, est une parfaite illustration du fait qu'un gros son peut être délicatement et même vigoureusement coloré sans recourir à un vibrato lourd. Évidemment, derrière la façade roux-doudou, il y a aussi le féroce polémiste. Et comme on vient de l'entendre, il est en train de se révéler un propagandiste de l'éducation musicale. Populaire auprès de son public, franchement, il fait tout pour. En 1955, il participe au show comique télévisé de Jack Benny, une émission qui touche un très large public. Même John Kennedy ne les ratait jamais, ces émissions-là. Benny, mauvais violoniste, a beaucoup joué sur cette veine avec Isaac. Ils deviennent très amis. Isaac, en arrivant sur scène, son violon à la main, commence par mettre l'archet dans l'œil de Jack Benny.
Isaac, I do want to thank you very, very much for being on my show.
It was my pleasure, Jack. And you know, now I have the distinction of being the only violinist who's played in the Hollywood Bowl, the Philharmonic Auditorium, Carnegie Hall, and Jack Benny's Closet.
Il se congratule, puis l'animateur veut emprunter le violon d'Isaac.
Oh, do you mind if I look at your violin just a moment?
Not at all, Jack. Just be careful.
Yes, yes, I will. Beautiful tone.
Oh, it's a wonderful instrument.
Celui-ci le lui met prudemment dans les mains. Jack Benny déchiffre une étiquette collée dans le fond de l'instrument et s'étonne.
It's cheap, though. Cheap? Inside here it says 1737.
That's the year.
1777 dollars? Mais non, c'est la date, s'exclame Isaac Stern.
Now, Isaac, I am sure that all of us now would like to hear you play a number without interruption. And I'll stand over there and listen.
Populaire enfin parce qu'Isaac ne se paye pas de mots. Il agit. il est un des rares musiciens de sa stature à accepter de jouer à Nashville ou n'importe quelle petite ville pour un cachet très faible, s'adaptant même à des acoustiques désastreuses. Il croit fermement que chacun a le droit d'écouter de la bonne musique. Faire chanter, caresser son violon n'est pas réservé aux nantis. Isaac a encore su mettre les orchestres dans sa poche. Il est particulièrement adoré du New York Philharmonic, avec qui il a tant fait de disques. Normalement, 3 jours sont dédiés à un enregistrement, mais Isaac est plutôt mauvais les 2 premiers jours. Et c'est reparti, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il ne travaille pas assez. Faux. Il a besoin d'être dans le bain avant de décoller. Donc, le 3e jour, il n'y a plus assez de temps et il faut ajouter des heures supplémentaires à l'orchestre. Les musiciens gagnent plus et tombent en amour pour Isaac. Maintenant les chefs. Il a amadoué les plus acariâtres. Fritz Reiner, pour commencer. Isaac arrive même à cajoler le plus grincheux, Georges Zell. Quelle finesse, quelle élégance mozartienne. Ils ont pactisé dans ce concerto numéro 3. En 1954, ils donnent ensemble 2 concerts avec le New York Philharmonic, mais ça ne va pas sans mal. Zell réprimande le violoniste. Il déplore que le soliste perde son temps pour des bonnes causes. Il aurait, dit-il, pu être le plus grand violoniste après Yascha Heifetz s'il avait travaillé plus. Il est vrai qu'Isaac commence à avoir la réputation d'un paresseux, un sujet dont nous aurons l'occasion de reparler. Quoi qu'il en soit, Isaac a su négocier. Avec des gens comme Zell, si vous n'êtes pas prêt, ils vous tuent. Et finalement, les 2 entêtés établissent un modus vivendi. Et Isaac joue au moins 1 fois par an avec l'orchestre de Cleveland et Zell. Il faut dire que le soliste a un carré d'as en main. Le facétieux nous explique. Les violonistes, contrairement aux pianistes, ont un avantage. Si le chef d'orchestre n'est pas avec vous lors d'une représentation, tout ce que vous avez à faire est de fermer les yeux en extase et de lui tourner le dos. Il est coincé, il doit être avec vous.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc, France Musique, c'est l'été.
En 54, Leonard Bernstein propose à Isaac de créer sa sérénade inspirée du banquet de Platon. À l'origine, il l'avait écrite pour un autre violoniste qui a déclaré forfait. Mais comment refuser quoi que ce soit à Leni? La première a lieu à Venise. Il existe une photo qui dit tout de la relation des deux amis. Isaac pose sa tête sur l'épaule de Leni pour lui faire un gros câlin.
Je me rappelle une fois à Venise, nous étions là en tournée ensemble. Nous étions en train de jouer les sérénades. Et un soir, après dîner, nous sommes allés marcher un tout petit peu, et puis nous sommes rentrés, nous avons pris une bouteille de cognac, nous avons commencé à parler. Et à l'aube, à 6 heures du matin, nous avons dit bonne nuit. Nous avons parlé toute la nuit. Et c'est des moments comme ça entre nous quand l'âme est nue. Et on peut dire seulement entre tes vrais amis ce qu'on pense, et ce qu'on souffre, et ce qu'on voulait faire.
Il ne pourrait pas écrire ce qu'il croyait pas. Il était au courant avec l'histoire de la musique, de la grande histoire, de la grande musique. Mais ce n'était pas possible pour lui de penser d'écrire philosophiquement dans la manière de Brahms ou Beethoven ou Mozart, et certainement pas comme Irving Berlin ou des autres compositeurs de jazz. Mais entre les deux, il y avait toujours des éléments qui oui. ont poussé un peu. Par exemple, le dernier mouvement de sérénade, où il y a des petits moments de jazz qui viennent automatiquement de la musique. Ce n'est pas une chose qui était mise exprès, mais qui sont développées naturellement.
La veille du concert, Leonard Bernstein envoie un mot à Isaac. 12 septembre 54. Isaac, mon Isaac. Quoi qu'il arrive ce soir, bon, mauvais ou catastrophique, je veux que tu saches à quel point je chérirai toujours ton travail sur notre sérénade. Personne ne sait jouer comme toi et personne ne sait jouer cette pièce comme toi. J'ai une dette éternelle envers toi. Et en plus, de toute façon, je t'aime. Merci de tout cœur. Thank you. En 1955, le festival de Ravinia propose à Istomin et à Stern une résidence estivale pour jouer plusieurs concertos avec l'Orchestre symphonique de Chicago et donner 3 concerts de musique de chambre. Leur rêve de trio ressurgit.
Oui, et moi, nous avons commencé de parler déjà éventuellement avec cette arrogance affectueuse de la jeunesse, sachant qu'il y avait dans le temps, dans l'histoire, il y avait le trio Cortot-Thibault-Casals. Si on tentait peut-être. Maintenant, il y a le trio de millions de dollars de Heifetz et Feuermann et Rubinstein au Piedigorsky et Rubinstein, mais ils ne jouaient pas de concert. Alors maintenant, avec ces deux monstres sacrés derrière nous, et si on tentait peut-être. Cherchons, on ne peut pas kidnapper le grand maître quand même, on ne peut pas le persuader d'aller avec nous, mais il faut trouver un violoncelliste de notre génération.
Et oui, le problème reste entier. Casals ne jouera pas en dehors de Prades, il l'a promis, juré. Istomin et Stern n'ont à ce moment aucun doute sur le choix du violoncelliste qui peut se joindre à eux. Ce ne peut être que Leonard Rose. À 37 ans, Leonard Rose s'affirme comme le grand violoncelliste américain de sa génération. Après avoir dirigé les pupitres des orchestres de Cleveland puis de New York, il s'est lancé dans une carrière de soliste depuis 51. Des liens d'amitié l'unissent à Istomin et Stern. Ils font souvent de la musique de chambre ensemble, juste pour leur plaisir. Pour comprendre l'entente entre le violon et le violoncelle, écoutons Leonard Rose et Isaac Stern dans l'enregistrement du double concerto de Brahms sous la baguette de Bruno Walter en novembre 54. C'est un enregistrement légendaire. Première répétition, ça marche. Isaac. L'un de nous disait, ça me rappelle ceci. Un autre remarquait, je me souviens que tel interprète jouait cette phrase ainsi. Les discussions étaient souvent animées. Sur le plan professionnel, nous avions chacun une voix unique et personnelle. Nous étions ensemble la quatrième voix, nous l'écoutions nous dire ce qu'il fallait faire. Nous étions assez bons amis pour pouvoir nous maudire les uns les autres, mais les concepts fondamentaux ont été très clairs dès le début. Nous nous respections tous trois, et lorsque nous finissions de travailler une œuvre à fond, nous étions sûrs de la ressentir de la même façon. Nous étions parfois si proches dans notre compréhension d'une musique que nous ne parlions même pas. Nous nous contentions de jouer. De vérité au festival de Ravignan, le premier concert. Eugène Istomine s'en souvient.
On a joué, on a fait ça. Et alors, c'était un très grand succès, on était très satisfaits. Et alors, les critiques nous ont descendus avec des mitraillettes en disant « Oh, c'est show-off américain, ils ne savent rien de la musique de chambre, ce sont des très personnalités qui ne savent pas se mêlés ensemble, on s'est dit « Bon, ça c'est une très bonne réception, on va continuer. » Et alors, mais on n'a pas continué, pas immédiatement. Quand même, on l'a attendu jusqu'à 1960.
C'est vrai, ils ont continué à jouer, mais juste pour le plaisir, puisque Casals habite depuis 1956 à Porto Rico et y a reconduit son festival, ils s'y produisent. Mais en vérité, ils sont désormais prudents, car ils ont en fait beaucoup à perdre. Aux États-Unis, le star system est omniprésent et la culture de la musique de chambre est très faible. Pour Rose, qui débute, le problème est moindre. Mais pour Eugène Istomine et Isaac Stern, solistes de premier plan, c'est un grand danger. Faire de la musique de chambre peut ternir l'éclat de leur réputation. Reste un point positif. Ils ont pris tellement de plaisir à travailler ensemble. En 1956, le grand événement pour Isaac, c'est son voyage en URSS. Il n'est pas le premier. Menuhin a donné un concert à Moscou en 1945. la troupe de Porgy and Bess est venue à Moscou en 55. Rappelez-vous le génial texte de Truman Capote qui raconte l'aventure dans le New Yorker, dans un texte magnifique que je vous recommande. Mais Isaac est le premier à faire une longue tournée au pays des Soviets. Bien des conditions ont dû être réunies pour que ce projet évoqué dès 51 se réalise. Il y a d'abord la rencontre avec un autre immense violoniste.
Oistrakh, j'ai rencontré pour la première fois en 1951. Moi, j'ai joué un concert à Amber, deux concerts parfois, et tout d'un coup, j'ai aperçu Oistrakh qui est venu avec deux compagnons de l'ambassade russe. Il est venu de Bruxelles me rencontrer, écouter un tout petit peu, et il est venu me voir. J'étais très touché. J'ai dit, il m'a demandé pourquoi je ne viens pas la semaine prochaine pour le concours Reine-Elisabeth où il était ou membre ou président de la jury, je ne me rappelle pas. J'ai dit non, j'étais pas invité et j'ai des choses à faire à Paris. Mais le moment que j'avais tout fini à Paris, je viendrai le voir à Bruxelles. Je suis arrivé et on se téléphonait. Il était à l'ambassade russe et moi à l'hôtel. Alors j'ai invité à l'hôtel. Il a dit non, peut-être pas à l'hôtel. Pourquoi vous venez pas à l'ambassade? J'ai dit non, choisissons un lieu entre les deux. Alors on a choisi un tout petit café tout près le Palais des Beaux-Arts où le concours aura lieu. Alors, mon pianiste Zakin, qui était avec moi, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu penses qu'il va venir seul? Tu penses qu'il pourrait parler facilement, franchement? Écoute, j'ai dit, écoute, Sacha, on va voir. On va discuter. On est allé, mon pianiste et moi, parce qu'il était russe et il parle couramment le russe, beaucoup mieux que moi. Et c'était la seule langue qui on pourrait parler. Alors, on était là un peu en avance, qui n'est pas normalement mon habitude. Et en tout cas, on attend, et tout d'un coup, Oistrakh arrive seul, avec un petit appareil de photo, et on s'assoit, et il commençait à parler. Après 40 minutes, il m'a dit, excuse-moi un instant. Il est allé au téléphone, téléphoné à l'ambassade. C'est Oistrakh, je ne viens pas pour le déjeuner, au revoir. Et on a resté ensemble 4h30.
L'idée d'échanges musicaux internationaux est dans l'air du temps, mais il faut attendre la mort de Staline pour que les musiciens russes sortent des frontières.
Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale.
Lors de ce que l'on a appelé les années de dégel, Sol Hurok, le fameux agent américain qui s'occupe d'Isaac Stern, a fait venir les premiers virtuoses soviétiques en Amérique. Ainsi, Gil Els et Oistrakh se produisent à Carnegie Hall dès 55. Cet hiver-là, David Oistrakh et Isaac Stern enregistrent le concerto pour deux violons de Vivaldi avec l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Ormandy.
C'était pas un homme, c'était un ange. un ange avec une noblesse dans son jeu qui était complètement unique. Une discipline et un certain charme, force de bonne volonté qui était autour de lui tout le temps.
La fuite définitive de l'année 1955. Encore une, dirons-nous, une pendant laquelle nous aurons vu se lever devant les voyageurs d'Occident le légendaire rideau de fer. L'équipe de France de football est allée à Moscou rencontrer devant 100 000 spectateurs l'équipe de l'URSS et en rapporter un magnifique match nul.
56. Le voyage d'Isaac en URSS est confirmé. Ainsi, Isaac est le premier musicien américain a endossé le rôle d'ambassadeur culturel. Pour blaguer, le musicien qui a perdu sa famille en Russie pendant la guerre trouve une jolie formule. Ils nous ont envoyé leurs juifs d'Odessa, et maintenant, nous leur renvoyons nos juifs d'Odessa. Il est parti seul avec Zakine, alors que Vera est enceinte jusqu'au cou. À la descente de leur avion, ils sont accueillis par une délégation, des discours et des gerbes de fleurs.
C'était vraiment une aventure. C'était une vie terriblement dure et sévère pour les Russes. Et aujourd'hui encore pire. Mais en même temps, il y avait une certaine manière chaleureuse. Surtout si vous êtes invité chez eux, immédiatement, tout ce qui est possible est sous la table. Et on vous enveloppe avec les deux bras, et on pourrait avoir des conversations. On devrait être attentif, qui est à côté, et où on pouvait mettre les micros, parce que partout il y avait des micros. Mais si on le sait en avance, on peut l'utiliser.
Voyage d'un idéaliste, vraiment ? Isaac a décidé d'arriver la veille du 1er mai à Moscou. Place Rouge, de son siège de VIP sur les gradins, non loin du Soviet suprême, il assiste à un interminable défilé de chars, de canons, de lance-roquettes, de groupes d'athlètes, d'acrobates, d'ouvriers agricoles, d'ouvriers d'usine, des organisations féminines, tous en rang parfait.
Quand j'ai entendu la langue et j'ai rencontré même les officiels, même les gardiens à l'hôtel, chaque étage a une femme qu'on appelle le dijournaya. C'était avec elle, on a laissé la clé et elle peut dire qui est sorti quand et qui était arrivé pour voir qui, etc., etc. Mais même avec tout ça, quand j'ai entendu la langue, quand j'ai rencontré les gens dans la rue, au concert, ou dans un restaurant. Je me sentais un peu à la maison, chez moi. Il y avait quelque chose qui est resté tout le temps. Je ne me suis pas senti comme un étranger complètement.
Voyage soir, il va au Bolchoï pour voir un opéra de Glinka. Et puis, c'est son premier concert à la fameuse salle du Conservatoire de Moscou. Elle peut accueillir 1700 personnes. Ce soir-là, il y en a 2000. On le lui a dit, il n'y a pas un seul violoniste à 800 km à la ronde qui ne soit là ce soir. En entrant en scène avec Zakine, Isaac est mort de peur à l'idée d'affronter le public russe réputé pour aduler la technique instrumentale. J'ai regardé l'auditoire et vu toutes sortes de visages, des vieux, des jeunes, quelques-uns que j'ai reconnus, des musiciens que j'avais déjà rencontrés, des membres du personnel de l'ambassade des États-Unis, des officiels de divers ministères russes et des musiciens professionnels. Tous avaient une attitude que j'ai ressentie comme très amicale. Nous avons commencé par une sonate de Handel. Isaac, cette sonate de Handel a été très bien accueillie, même si les applaudissements n'ont pas vraiment crépité. J'avais remarqué que dans les mouvements lents, les musiciens professionnels s'étaient tournés les uns vers les autres avec des sourires d'approbation lorsque je faisais certaines nuances ou à la fin de certaines phrases. Pour clore la première partie du programme, nous avons joué la sonate en ré mineur de Brahms. La salle a éclaté en applaudissements pour la première fois de façon vraiment nourrie. Cette réaction faisait plaisir, mais nous étions tellement tendus au début du concert que nous n'avions aucun moyen d'apprécier la nature réelle de la réaction de l'auditoire. Durant l'entracte, qui peut durer jusqu'à 40 minutes en Union soviétique, Oistrakh vient dans les coulisses embrasser Isaac, heureux de ce qu'il estime un grand succès. Mais ensuite, ça se gâte. Isaac et Shurazakin jouent une sonate pour piano et violon de Copland. Les applaudissements sont tièdes et polis. Mais enfin, il triomphe ensuite avec Mozart, Bloch et Wieniawski, évidemment. Le 8 mai, il joue dans l'illustre salle Tchaïkovski à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad. Isaac devient fou depuis un moment. Il est presque impossible d'avoir des communications téléphoniques. Parfois, il lui faut attendre 11 heures pour parler quelques minutes à Vera. Ce soir-là, dit-il, j'étais en coulisses avant le concert, lorsque quelqu'un est entré pour m'annoncer que j'avais un appel téléphonique. Vera avait réussi à joindre l'ambassade et tout le monde s'était plié en quatre pour qu'elle puisse parler à Isaac. Elle lui annonce ainsi la naissance de Shira, qui en hébreu veut dire « chant ». Ensuite, Kiev, Bakou, Erevan, Tbilissi. À chaque concert, le public force les portes d'entrée. Devant ce genre de public, on ne pouvait donner que le meilleur de soi-même, se souvient Isaac. Souvent, à la sortie des concerts encore, les mélomanes se pressent et demandent des nouvelles de ceux qu'ils aimaient tant et vivent désormais aux États-Unis. Heifetz, Milstein, Piatigorsky, Horowitz et même Nahum Blinder, son professeur, ce qui le touche infiniment. Le dernier concert a lieu le 30 mai à Moscou. L'après-midi, Oistrakh demande à Isaac de venir écouter quelques-uns de ses élèves. Mais les jeunes, intimidés, n'osent pas vraiment s'exprimer. Alors Isaac et Oistrakh prennent leur violon et jouent pour eux. La nouvelle a vite fait le tour du conservatoire et la porte de la salle n'a cessé de s'ouvrir pour laisser entrer furtivement d'autres étudiants et professeurs jusqu'à ce qu'elle soit bondée. Une étudiante s'en souvient très bien, c'est Nelly Skolnikova.
Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que faisaient les autres puisqu'on ne pouvait accéder à aucun autre pays. Le premier violoniste qui est venu chez nous, c'est Isaac Stern. Ça a été un choc considérable pour moi. J'ai commencé à penser la musique autrement. C'était comme une sorte de révolution. Car il a prouvé qu'on pouvait être un très grand musicien au violon. Vous savez, dans l'école russe, on était toujours tellement préoccupé par l'aspect technique, par le professionnalisme au violon. Peut-être un peu au détriment de la musique, pas complètement évidemment, on parlait du style. Mais je pense qu'il y avait là une limitation. Le talent d'Isaac Stern, quelquefois il jouait faux et même techniquement ce n'était pas toujours parfait. Mais ce qui m'a tellement frappé, c'est qu'il ne s'agissait que de musique. Que de faire de la musique. C'était plein d'imagination, dans le style. Et chaque fois qu'il jouait une œuvre différente, c'était comme si on entendait un autre musicien. Et pourtant, c'était difficile à comprendre, car il respectait en même temps totalement le texte. Il ne faisait rien à l'envers, il ne faisait pas d'effet comme font certains musiciens pour se montrer différent. Mais c'était parfaitement naturel et tellement convaincant.
Avant le départ, il y a encore une garden party à l'ambassade de Grande-Bretagne. Isaac y rencontre Khrouchtchev. On se félicite de cette belle tournée, on trinque. Mais Khrouchtchev fait allusion à un événement récent qui le chiffonne. Le Congrès américain vient de voter une loi selon laquelle tous les artistes étrangers devant se rendre aux États-Unis doivent fournir leur empreinte digitale. Pour les Russes, c'est comme si on les traitait de criminels. Khrouchtchev à Isaac. Cette affaire d'empreinte digitale est totalement inacceptable. Isaac. Cette loi a été votée par un groupe du Congrès. Khrouchtchev. Bon, dites au président de la changer. Isaac. Monsieur Khrouchtchev, le président ne peut pas changer les lois. C'est le Congrès qui fait les lois. Le président ne peut que les signer ou y opposer son veto.
Enfin, c'était vrai que les relations culturelles entre la Russie et l'Amérique a été coupé pour 2 ans à cause de cette petite aventure avec Khrouchtchev qui n'était pas très poli au sujet du Congrès des États-Unis.
La fin du voyage est émouvante. Les élèves du conservatoire sont venus sur le tarmac lui dire adieu. Oistrakh est là aussi, bien sûr. Quelques derniers mots échangés.
Je lui ai dit, Dodek, c'était personnel, pourquoi tu ne viens pas finalement? Il a dit, premièrement, ce sera difficile d'y aller avec toute la famille. Et j'ai dit, mais pourquoi tu travailles autant? Tu diriges sans cesse, tu joues des concerts, tu rentres en Russie, tu te reposes même pas une semaine et tu commences immédiatement avec les leçons, les petits concerts autour de Moscou ou dans les autres villes. Et tu ne cesses pas de travailler chaque jour. Il m'a répondu, Isaac, je te jure, si je ne travaille pas, je commencerai à penser. Si je pense, je suis mort.
Aimé les musiciens russes et a découvert l'un des publics les plus réceptifs au monde. Mais question politique, est-il aussi satisfait?
Pas la politique musicale. La vie en politique, on pense toujours que s'il y a des bonnes relations artistiques et culturelles, ça va aider les relations politiques entre les nations. Je voudrais le croire, mais je ne le crois pas. Certainement, c'est un moment de découvrir les grands talents, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, les solistes, les orchestres. Et certainement, pour les rencontres entre les musiciens avec leurs camarades dans l'autre pays, est très important. Mais ça ne donne rien sur l'évolution de la politique.
Mais Isaac n'en a pas fini avec son activité pour le développement de la musique. En 1957, il donne un concert pour l'inauguration de la nouvelle salle de Tel Aviv, financée par Frédéric Mann, un industriel qui a fait fortune dans les emballages en carton, mélomane et grand mécène. Il explique à Isaac le mot hébreu pour la charité est tzedaka, ce qui signifie vraiment la justice. Si vous vivez avec opulence, vous devez partager avec les moins fortunés. Le violoniste apprend. Pas question d'attendre des deniers publics pour construire un beau projet musical. Mieux vaut rassembler les énergies et les financements privés. Il n'oubliera rien de cet enseignement et on sera bientôt le champion. C'est lors de ce voyage en Israël qu'Isaac repère deux élèves intéressants. Itzhak Perlman, qui est victime de la polio et doit jouer assis, et que nous écoutons ici à l'âge de 13 ans, et aussi Pinchas Zuckerman. Il est charmé parce qu'il décèle en ces deux gosses cette forme d'autorité qui fait les grands instrumentistes. Il se promet de les réentendre bientôt.
Allô, monsieur Isaac Stern, Emmanuel Franc, France Musique, c'est l'été.
Aux États-Unis, les tournées habituelles de l'été sont Philadelphie, Ravinia, Chicago, Tanglewood, Boston, San Diego et Hollywood, Hollywood Bowl. Isaac commence à participer à un genre de concert particulier très années 50-70. Il s'agit des croisières. Il fait son premier voyage sur le paquebot Le Flandre. Il faut dire qu'il a besoin de se relaxer un peu. Il se lance dans des projets parfois difficiles et risqués. Il y a notamment le concerto numéro 2 de Bartok avec le New York Philharmonic sous la direction de Leonard Bernstein en janvier 58. C'est un des plus grands souvenirs d'Isaac. D'abord parce qu'il aime profondément la musique de Béla Bartok.
Je l'ai rencontré quelques mois avant qu'il est mort. Ici à New York, j'ai joué pour lui. Mais la force, la beauté qu'on peut trouver dans les deux concerti et les deux sonates sont la même beauté. On peut avoir une ligne qui vient de Brahms à Bartok avec la même grandeur, la même touche humaine qu'on peut chanter.
J'ai appris le concerto et je l'ai joué de mémoire en 11 jours. Et je suis presque mort d'un tel effort. Je pense que je me suis entraîné 24 heures sur 24 littéralement. J'ai dû dormir 2 ou 3 heures, au point qu'à un moment, je ne pouvais plus me tenir debout en plein spectacle. Mais avec Bernstein, c'est l'apothéose, même si ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit.
Parce qu'il n'était jamais un chef d'orchestre qui était le plus confortable avec qui on peut travailler. Parce qu'ils avaient toujours des idées à lui-même. Il a fait un grand effort de faire le mieux possible pour le soliste. Mais malgré tout, il a eu ses idées très très fortes. Et quelquefois, on devrait insister et montrer pourquoi on voulait que cette phrase sera comme ça, mais pas comme ça. D'autre part, il avait cet énorme talent de créer un événement sur la scène en ce moment quand vous travaillez, quelque chose qu'on n'attendait pas.
Nous nous quittons en 59, année où M. Isaac et Mme Vera Stern font part de la naissance du petit Michael. Il a sacrément raison d'être né cette année-là. En 60, son père ne va plus savoir où donner de la tête. Il est follement populaire. Il a compris qu'il pouvait jouer un rôle pour développer une politique musicale. Il meurt d'envie de jouer en trio. Alors attention, en 60, il va casser la baraque. Stop, pas un mot de plus, ce sera pour demain. C'était Allô Monsieur Isaac Stern, une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado. Le mixage est signé Bernard Laniel. Un grand merci à Bernard Loupias pour la traduction. Je vous donne rendez-vous à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.